Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 13h.
Dans le cadre d'un partenariat avec Radio Campus, Lille 3000 vous invite à sa parade d'ouverture le samedi 27 avril 2019. La ville sera transformée et animée sur le thème de la culture mexicaine. Plus d'infos sur lille3000.com. Alors, soyez nombreux pour l'Eldorado.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. On est ravis d'être avec vous sur Radio Campus 106.6. On est en direct, il est 13h02. Et pour animer cette émission aujourd'hui, nous sommes trois. Il y aura moi-même François Westin. Je suis accompagné de Reynald Paris. C'est mieux.
Avec les
c'est
micros,
mieux avec
c'est
du
mieux.
Son.
Bonjour à tous.
Et Dominique Candeil.
Bonjour à tous. J'aime bien voir la tête des invités quand ils entendent le générique pour la première fois. Ils ont envie de s'enfuir, mais on a fermé les portes.
On les a même entourés.
Et aujourd'hui, nous allons faire un grand voyage ludique ensemble, puisque nous allons parler du festival Ludinor.
Si je peux me permettre, l'émission d'avant nous a bien échauffé, puisqu'ils ont parlé des. On sait tout sur les gilets jaunes maintenant, et on va tout savoir sur les maillots jaunes, enfin les t-shirts jaunes.
C'est ça.
C'est la couleur des t-shirts des bénévoles de Ludinor.
Et voilà, comme tu l'as précisé, nous avons deux invités avec nous aujourd'hui. Nous avons Aude Veiti. C'est ça ? Oh, tu n'as pas de micro non plus.
Gvaiti.
Et tu es notamment dans le parti organisateur de Ludinor en tant que coordinatrice.
Tout à fait. Alors, je ne suis pas toute seule. Hein. On est quatre coordinateurs. Et puis derrière, encore une trentaine de bénévoles dans différents groupes. Pour organiser ce beau festival qui se tiendra dans deux semaines.
On va le rappeler.
Et également avec nous, Xavier, qui est président du festival Ludinor.
C'est ça. Alors, moi, je suis président de la Fée des Jeux qui organise tous les ans Ludinor. Voilà.
Parfait. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Ludinor? Pour trois raisons, puisque c'est bientôt, c'est le 30 et 31 mars, c'est dans deux semaines.
Ça peut aider, ouais.
C'est près de chez nous.
Exactement.
Puisque tous les événements vont se passer à Mont-Saint-Barœul.
Exactement.
Et aussi parce qu'on est fan de jeux de société et d'activités ludiques, et on peut dire que Ludinor, c'est un des salons de référence au niveau des activités ludiques. Et du jeu de société.
C'est ça. On est dans les 5 plus gros festivals de France. Et donc, du coup, l'idée là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on essaie de faire en sorte que les gens, ils viennent jouer. Hein, on essaie de faire en sorte que les gens viennent jouer. C'est ça le principe.
Donc, j'ai envie de vous le poser tout de suite comme question. Comment avez-vous rejoint cette aventure Ludinor? Quand est-ce que ça s'est passé? Et comment quelles ont été les premières démarches?
Votre profil, votre historique de joueur, si.
Alors, si je vous raconte la vraie histoire ou la
vraie
histoire. La vraie histoire, c'est quoi? C'est on sort d'une asso qui s'appelle toujours d'ailleurs l'Étoile du Jeu, qui est à Mont-Saint-Barœul. On sort de l'asso avec le président de l'époque, donc moi le président, et puis on se dit bon, la salle du fort on l'a pour dans 15 jours et on n'a rien de prévu. Et ça, c'est un peu la loose, parce que c'était une des premières fois où on travaillait avec la mairie. Ils nous octroyaient une salle, c'était cool, sauf que j'ai rien de prévu. Et on se dit, si on faisait un salon du jeu, parce que comme ça, ça fait bien et ça a l'air plutôt cool. Et qu'il n'y en a pas dans le coin. Et donc du coup, voilà, on organise ça en 15 jours.
Avec des nappes en papier, une tonnelle récupérée je ne sais où.
Voilà, avec des bouts de ficelle, quoi. Ouais. Des bouts de ficelle.
Bon, on a fait quand même 300 entrées la première année.
C'est ça. Hein,
Et aujourd'hui, 300, c'est même pas le nombre de bénévoles qu'on a, parce qu'on est à plus de 400 bénévoles.
Il n'y avait même pas Facebook et tout, cette fois-ci, ça existait peut-être déjà, mais il y avait rien.
Non, mais alors, ce qu'il faut se rendre compte quand même, c'est qu'il y a 10 ans, faire 300 personnes sur une première session, c'était presque énorme. parce que c'était moins développé que maintenant. Maintenant, quand on fait une première session de festival, j'en ai rencontré pas mal, ils sont souvent à plus de 1000.
C'est grâce notamment aux réseaux sociaux, au développement. Puis contrairement à tous les salons, je sais pas, salon de l'automobile, salon de peut-être pas les salons de l'érotisme, je sais pas, tous les salons qui existent, etc., qui se font un peu concurrence. C'est-à-dire que quand t'es allé à les salons du mariage, par exemple, tu vas à un salon de mariage, tu vas pas forcément les autres. Le salon du jeu, plus t'y vas, plus tu cherches d'autres salons pour y aller. Ouais. Et j'ai la liste des salons à venir ou récents, et c'est impressionnant. On est en pleine saison là, en ce moment, des festivals de jeux.
Ouais. Alors si on regarde le calendrier, on a fait des festivals de jeux en France. Globalement, il y en a tous les week-ends partout, quoi. Donc, après, les vrais joueurs qui aiment ça et qui cherchent les festivals, organisent leurs vacances en fonction. Exactement. Alors, nous, on est fans, on aime bien Partenay, hein. Donc, souvent, on essaie de caler nos vacances d'été avec le festival de Partenay. Voilà. On cherche s'il n'y a pas un festival de jeux dans le coin quand on part en vacances.
En fait, c'est plus difficile maintenant de trouver un week-end où il n'y a pas de festival de jeux. Il y en a même des week-ends où, la semaine dernière, j'étais au salon de Montpellier. En même temps, il y avait le salon d'Épinal. Je suis sûr qu'il y avait au moins deux autres salons en France. Et là, c'est des gros salons. On ne parle pas de petits salons à que 300 personnes. Ça, faut parler, quoi.
Oui,
c'est impressionnant. Bah, le salon de Montpellier, j'ai eu les chiffres. Cette année, c'était leur 10e édition. Les années précédentes, ils ont fait 5500, puis 6600. Et cette année, plus de 9000 personnes. Ils ont pratiquement doublé la surface. Ils ont ouvert un nouvel étage complet pour les tournois, les protos, etc. C'est impressionnant.
Ouais, c'est la limite un peu qu'on a aujourd'hui, nous, sur Mont-Saint-Barreul. C'est qu'on a pris beaucoup de...
Le sujet polémique.
On a pris beaucoup de visiteurs. On a été très surpris l'an passé. On a atteint 12 000 personnes quand on était à 9 500 en 2017. Et on ne s'y attendait pas, en fait. Mm-hmm. Et du coup, c'est aujourd'hui notre problématique, notre fil rouge, c'est comment accueillir autant de personnes, voire plus, dans les meilleures conditions.
Même en tant que simple visiteur comme on est, les premières années où je suis venu, donc il y a 7-8 ans peut-être, il y avait simplement la salle de sport. Quoi, ça suffisait, c'était très sympa, etc. Mm-hmm. Puis il y a une espèce de petit chapiteau qui s'est ouvert à côté, un chapiteau temporaire, et puis vous avez ouvert une nouvelle salle, salle Montaigne, avec... Ouais. Oui, on peut y aller à pied en 5-10 minutes. Puis l'année dernière, j'ai voulu faire des jeux de rôle, c'était dans une salle encore plus loin. Ouais. Et apparemment, cette année, il y a encore une nouvelle salle.
Ah, c'est dans les infos de dernière minute.
À chaque fois, le gimmick, c'est je vois jouer un ordinateur de Winner, j'ai dit alors, c'est quand le Grand Palais
Alors, on fait souvent des tours de quartier et de la ville pour voir s'il n'y a pas des salles cachées. Oh. Et après, on vient avec notre liste de courses auprès de la mairie en disant, dis donc, on a vu une salle, est-ce qu'on pourrait pas voilà. Donc on a déjà fait du repérage pour l'an prochain.
C'est vrai qu'on vous taquine un peu sur le sujet, mais j'imagine que dans toutes les réunions de préparation, ça doit être un des sujets les plus bordés et qui vous mine le plus. Enfin, je ne dis pas que ça vous empêche de dormir, mais ça devient problématique. Alors pour vous, pour l'organisation, le fait d'avoir plusieurs pôles, plusieurs endroits en même temps, ne serait-ce que pour le flot de gens, mais aussi pour l'organisation et pour les visiteurs, parce que quand un visiteur sait qu'il doit aller dans une salle, quand il fait beau, ça va, il n'y a pas de problème, quoi, on en profite. Et puis il y a des jeux de plein air quand on sort de la salle, on peut jouer. Des fois, on n'arrive même pas à la deuxième salle parce qu'en fait, on s'arrête pour jouer dans la rue pratiquement. Avec les gens. Et j'imagine que c'est un problème pour vous. Quoi.
L'autre festival, alors vous le savez peut-être pas, mais en fait, on a piqué plein de choses à plein de gens, plein d'autres festivals évidemment, mais comme d'autres festivals nous piquent des choses. Mais ça, c'est normal et c'est plutôt cool parce que on essaie d'innover, de trouver des nouvelles choses. Alors le problème de place, ça a été un problème qui a été compliqué au moment où on s'est décidé de prendre deux salles. Parce qu'on a eu des rapports assez étroits avec Grand Palais, plusieurs années de suite, parce que Grand Palais voulait faire ce qu'on appelle une coproduction, c'est-à-dire qu'il voulait intégrer Ludinor au Grand Palais. Donc on a pas mal discuté avec eux, on a fait quelques réunions de travail, parce qu'on s'est dit, effectivement, Grand Palais, c'est plutôt la solution facile, hein, comme dans d'autres festivals, où on a un palais des festivals, et puis c'est tranquille, quoi. Sauf que on n'a pas forcément réussi à se mettre d'accord sur en fait l'idée c'est on cherche pas à garder la main sur le festival spécialement hein. C'est juste que je veux garder l'âme du festival et avec le Grand Palais c'était un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la partie financière qui entrait et commerciale qui entrait vraiment beaucoup en jeu. Et puis voilà, nous on était là en tant que consultants sur le savoir-faire. Voilà. Et sur les deux années où on a discuté ensemble, on n'a pas réussi à se mettre d'accord parce que du coup, on partait sur, on voulait intégrer, par exemple, du jeu vidéo qu'on souhaitait pas spécialement. Et puis, on s'est dit, mais pour les visiteurs, comment ça va se passer? À Lille, tout est payant, les parkings, les choses. L'entrée, ça aurait été beaucoup plus cher. Puisqu'il faut rentabiliser la salle et les gens qui y travaillent, ce que je comprends, hein, mais du coup on n'est plus sur le même truc. Et comment je fais pour faire intervenir mes bénévoles dans ce cadre-là, sans imaginer que ce soit des travailleurs presque dissimulés du Grand Palais, quoi.
Alors, est-ce que ça veut dire que sur tous les événements de l'île Grand Palais, ils ont toujours plus ou moins une main sur l'événement qui est en cours?
Alors sur les coproductions, oui. Alors quand on loue la salle directement, par exemple, je sais pas moi, je pense au salon de l'érotisme, je pense que ça va être le cas. Et ben du coup, oui, on loue la salle, ça coûte un certain tarif. Sauf qu'on est contraint de plein de choses.
Ouais. La salle est vide, hein. On loue juste les murs. Après, il faut louer les tables, il faut louer une restauration.
La sécurité, c'est forcément la sécurité du Grand Palais. Ouais. Les tables, c'est forcément les tables avec les prestataires du Grand Palais. Ouais. Si je veux l'électricité, c'est plus cher. Si je veux la restauration, j'ai pas le droit de vendre de bouffe à l'intérieur. C'est le Grand Palais qui vend. Enfin, etc., etc. Ouais, enfin, il y a plein de contraintes qui font que c'est très compliqué.
T'es obligé derrière après à redescendre sur les éditeurs qui viennent de ton festival.
Ça.
Et donc ça redémultiplie. Alors c'est soit les éditeurs,
soit les visiteurs.
Avec le prix d'entrée, avec le prix de la restauration. Voilà.
Justement, je vais en profiter pour refaire un petit peu le point sur tous les festivals récents. En partant, je pense que c'est le Festival de Cannes, le gros, qui ouvre pratiquement la saison des festivals chaque année, et pour voir un petit peu les différences. Donc, Festival de Cannes, c'était il y a trois, quatre semaines, on y était, vous y étiez aussi. Ça, c'est un salon, c'est plus qu'un salon pour les visiteurs, c'est un salon. L'entrée est gratuite. C'est dans le Grand Palais, là où se passe le Festival de Cannes de cinéma. C'est gratuit. On peut payer une entrée VIP, mais bon, c'est un problème. Mais l'argent qui est généré, parce que c'est vraiment un salon professionnel où les professionnels se rencontrent, nous, en tant que visiteurs, on a vu que la partie immergée de l'iceberg, il y a des étages entiers qui sont consacrés aux rencontres éditeurs, les boutiques viennent pendant un jour, etc. L'argent, il vient de là. C'est-à-dire que les éditeurs, les exposants, etc., payent très très cher, apparemment, je connais pas les tarifs, leur stand, mais les visiteurs ne payent rien du tout, il n'y a pas de bénévoles, je pense pas, parce que la nourriture est gérée par une société, etc. La sécurité est gérée par le palais, j'imagine. C'est des professionnels. Il y a absolument rien dans l'organisation elle-même qui est amateur, bénévole. Et ça, c'est vraiment la référence, quoi. Mais c'est un salon de professionnels, pas que pour les professionnels, mais presque, quoi.
C'est ça. Mais le salon de Cannes, c'est le plus vieux salon de France.
Qui s'appelle festival d'ailleurs, alors qui devrait peut-être plutôt s'appeler salon du jeu d'ailleurs.
Alors quelle serait la différence entre un salon et un festival?
C'est une vaste question.
Une question qu'on s'est longtemps posée, de savoir si l'île Nord c'est un festival ou un salon du jeu.
Parce que je m'autocorrige depuis ce matin à dire non, je vais pas dire salon l'île Nord, je vais dire festival.
C'est ça.
Alors je fais bien.
Alors,
du
dans festival, on entend estival et il y a des gens qui disent le festival c'est forcément pendant l'été.
Ou pas.
Il y a festival, il y a aussi une notion d'extérieur dans le festival. Et le salon, on est plus sur des stands.
C'est un petit peu salon professionnel, le salon d'automobile, etc.
On est sur le salon du chocolat ou le salon de... Voilà, c'est des choses comme ça.
Alors, à l'Udinor, tu voulais enchaîner avec d'autres salons.
Je continue chronologiquement. Donc la semaine dernière, j'étais à Montpellier pour le salon qui s'appelle Sortons Jouer. Donc il y a 9000, c'est leur 10e année, donc 9000 visiteurs cette année. Gros salon, donc je connais. J'y suis allé l'année dernière, donc gros coup de cœur pour ceux qui habitent la région. J'y suis allé l'année dernière en visiteur et vraiment, c'est vraiment des passionnés. Il y a plein de choses différentes. C'est vraiment un salon que j'adore. C'est peut-être mon préféré. Il reste à une échelle à peu près humaine, on va dire, quoi.
C'est un joli festival, j'en ai eu beaucoup de bons retours.
Et en plus, c'est au Montpellier, c'est dans un lieu qui s'appelle Le Corum, qui est pratiquement, je pense que c'est une taille à peu près équivalente au salon des festivals de Cannes, parce qu'il y a plein de choses, il y a un opéra dedans, il y a des étages de parking, enfin c'est vraiment, il y a plusieurs étages, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un grand potentiel qui va grossir de plus en plus. On arrive à ce week-end. Alors ce week-end, il y a des salons, notamment il y a le salon d'Amiens.
Oui, il y a à vous de jouer.
À vous de jouer, c'est ça.
Vous de jouer, hein.
Un salon très intéressant, une petite anecdote, c'est qu'il se passe dans le lieu où en même temps, le même week-end, l'année dernière c'était pareil, il y a le salon du chocolat.
C'est ça, en même
et
temps.
Pour la même entrée, on paye 5 euros, pour la même entrée, on peut aller au salon du jouet du chocolat et passer de l'un à l'autre. C'est ça.
On peut jouer en mangeant du chocolat.
Tu rajoutes un salon de la
bière. C'est énorme.
Tu rajoutes un salon de la bière.
Comme à la maison.
Tu rajoutes un salon de la bière, c'est le paradis.
C'est ça. Hein, salon de la bière, du vin
et de la frite
et du jeu
avec modération.
Là, on est bien.
Pas le jeu
et du saucisson.
Ça fait des pistes pour les dîners, ça, c'est ça. Après, tu peux faire un salon de l'érotisme en même temps. Ça pourrait être intéressant, mais bon, faut voir.
Ça ramènerait du monde.
C'est plus les mêmes jeux là.
Il y a des pistes à explorer. Ce week-end encore, j'ai découvert ça ce matin. À part la distribution du ch'ti sur la place de la République, hein, c'est intéressant. Il y a un petit côté jeu parce qu'ils ont mis des jeux géants pour les enfants. Donc, et puis, dans le ch'ti, on retrouve ici tout l'agenda pour toute l'année, pour toutes les sorties, y compris ludiques, et tous les bars ludiques et les cafés ludiques à Lille.
C'est ça qui se développe pas mal, hein, depuis quelques années.
C'est dans toutes les villes de France. C'est impressionnant.
Et avec qui on a un partenariat aussi cette année en nouveauté, c'est qu'on essaie de mettre en avant les bars à jeux de Lille comme acteurs ludiques.
C'est important, oui.
Ouais. Et donc, qu'est-ce qui sera fait pour ça? Voilà. Info.
Un scoop.
Breaking news. Et ben du coup, il y a une soirée spéciale Ludinor dans l'ensemble des bars à jeux de la métropole. Le mercredi juste avant.
Super.
Où il y aura des trucs à gagner,
des entrées à gagner,
ouais. Des jeux, des goodies, parce que cette année on a fait le plein de goodies cette année. Ouais. Ça c'est plutôt cool.
Trop fort. Quelques exemples de bars dans le coin.
Ouais, ou... Ah bah oui, on a des bars comme Ludibreak, La Luck, Au Beau Jeu qui fait aussi bar à jeu, le dernier bar avant la fin du monde.
Et il y en a plein, il y a plein de cafés où on peut s'installer et jouer.
C'est ça.
Ouais. C'est ça. Ouais. Soit avec les jeux qui sont sur place, mais j'ai toujours mon sac rempli de jeux, c'est pas un problème. Ce week-end aussi, j'ai découvert ça à pas très loin d'ici, à Villeneuve-d'Ascq, c'est pas la Cité des Sciences, c'est le Forum Départemental des Sciences. Il y a tout le week-end la fête des maths et des jeux. Donc ça commence, c'est l'après-midi, donc aujourd'hui et demain, c'est entièrement gratuit. Donc si vous pouvez pas aller jusqu'à Amiens pour jouer à toi de jouer. Avec un Cluedo géant apparemment, j'ai entendu dire. Donc là, on reste dans l'esprit du jeu. Ça n'arrête pas. Tu peux chercher des événements autour du jeu tous les jours, t'en trouves, c'est incroyable. Ensuite, on part la semaine, alors pas semaine prochaine, donc dans deux semaines, on a Ludinor. Un peu plus loin, on a, Trolls et Légendes, c'est avril, mi-avril, le 19 et 20 avril, Trolls et Légendes, c'est en Belgique, à Mons. Gros salon qui a le tous les deux ans. C'est pas que du jeu, c'est un mélange, c'est la rencontre, la fête médiévale entre la musique, entre les artisans médiévaux, enfin les artisans tout court, les artisans
dès qu'on rentre à Trolls et Légendes, on rentre dans un univers fantastique.
Ouais, fantasy,
la science-fiction, chaque fois ils ont des auteurs qui viennent du monde entier, des auteurs de science-fiction, de fantasy, qui viennent dédicacer pendant des heures, il y a des acteurs aussi connus, je n'ai pas vu la liste des invités. Mais
si on n'a pas ses places à l'avance, c'est un peu compliqué, des fois ils refusent des gens à l'entrée parce que du coup ils sont pleins.
C'est vrai que j'ai pas parlé des tarifs. Mais c'est vrai que Montpellier c'est gratuit, Ludinor c'est 5 euros
le week-end et 3 euros la journée.
Voilà. Cannes c'est gratuit. Alors Trolls et Légendes, je connais pas les tarifs cette année, mais c'est un petit peu plus cher, mais c'est vraiment un salon.
Oui, parce qu'il y a des concerts.
En plus, il y a des concerts, etc.
Il y a deux tarifs. Il y a tarif concert et tarif sans concert.
C'est ça. Donc, il faut compter au moins entre 10 et 20 euros. Ça dépend. Bref.
Mais je ne l'ai jamais fait. Alors, c'est Xavier qui parle.
Ouais.
Je ne l'ai jamais fait. Et donc, du coup, j'étais tenté. Mais madame qui est à ma droite n'était pas tentée cette année. Donc, du coup,
non, il faut qu'on se repose après Ludinor un petit peu quand même.
C'est pas étonnant. Ah oui, bon, on est content de pouvoir vous offrir aussi une petite, parce que là vous êtes en plein rush pour Ludinor,
tout le mois de mars.
On est content de pouvoir vous offrir une petite pause histoire de respirer un peu pendant une ou deux heures.
Exactement.
Ensuite, une semaine après Trolls et Légendes, pas très loin d'ici, il y a Web en jeu. C'est la quatrième édition, ça se déroulait à Labassé jusqu'à maintenant. Cette année, c'est à Salomé, c'est une petite ville, c'est juste à côté dans Saint-Léfette, donc qui est organisée par l'association des Punchers. Je sais parce que je suis bénévole dedans, donc j'y serai encore cette année.
De la c'est pareil, pour un petit, sa paroisse.
Un petit salon, c'est clair. Ben, ouais. La première édition, c'était dans une petite salle, la salle Agora Vox, si je dis pas de bêtises, à Labassé, c'était tout petit. On était très serré. Ensuite, on est passé à une salle de sport et maintenant, enfin, ça, à chaque fois, ça grossit. C'est un salon qui grossit aussi. Ben, comme tous les salons, quoi. Tu sèmes des graines de salons de jeux un peu partout et ça essaime.
C'est ça, mais dans la région, il y a déjà pas mal de salons. Hein. Web en jeu, t'en as cité un, mais on a aussi Baraque à jeu à Zuidcote. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme salon dans le coin
Après, il y a la Coin, mais.
La Coin, c'est l'île 3. L'île 3.
Ah oui, c'est en novembre, oui, c'est ça. Novembre, la convention inoubliable.
Ouais. Convention inoubliable, c'est ça.
C'est ça, eux qui sont plus jeux de rôle. En plus, on n'a même pas parlé des conventions de jeux de rôle.
Montpellier,
la semaine dernière, c'était un salon du jeu. Et ce week-end, c'est salon festival du jeu de rôle à Montpellier. Donc, ouais. Mais je ne vais pas y aller deux semaines quand même.
Un dernier salon, on donne.
Oui.
Parce que je vois qu'il va tenir une heure avec le Tour de France et le salon.
Regarde, on a le temps. C'est bon.
Non, mais on
peut aller après. En juin, il y a Paris Ludique, qui doit être peut-être le deuxième gros salon en France après Cannes.
Ouais, avant juin, on a mai quand même où il y a Toulouse.
Ouais, Toulouse.
Quand même, Toulouse, c'est quand même un festival qu'on peut remarquer.
Et qui nous ressemble en fait, parce que c'est un festival qui est organisé par des bénévoles. Donc,
c'est ça. Et eux, ils ont plus de bénévoles que nous.
Quoi?
Comment c'est possible?
On vous expliquera après comment rejoindre l'aventure des bénévoles.
On reviendra sur le sujet.
Comment c'est possible?
Et ce week-end encore. Alors c'est pas vraiment, c'est un petit peu lié au lieu. J'ai vu ça. C'est à Tourcoing. C'est le week-end des géants. C'est à Tourcoing où tous les géants de la région se rassemblent. Il y a même des géants qui viennent de très loin, de Tchécoslovaquie, de Chine, d'Amérique du Sud, etc. Donc les fameux géants du Nord. Et j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous attendez pour avoir votre géant, Ludina?
On n'a pas de place pour ça.
Place.
Il faut. Non, c'est pas possible. Il faut de la place pour un géant, c'est pas possible.
Bon, ça prend pas de place, un géant. Tu fais un petit géant.
On y réfléchira à un géant avec un t-shirt jaune. Non,
je verrais bien. Parce que j'ai commencé à réfléchir à partir en vrille et un coup, je verrais bien deux géants.
Ah.
Un qui s'appelle Nordine et l'autre qui s'appelle Ludine. Donc ça ferait Ludine. Hein, des géants sympas avec un costume, avec des petits éléments de jeu, etc. Tu vois.
Mais on n'a même pas encore de mascotte.
C'est parfait.
On n'est même pas là-dessus encore.
C'est vrai.
On a encore des marches de progression.
Exactement, c'est cool.
Après 11 éditions, toujours pas de mascotte.
Ouais, mais la mascotte, il y avait quand même pas mal l'année dernière, la petite fée des jeux qui avait été faite
en plan de
travail.
On a la fée des jeux.
Ouais, voilà.
La Fée des Jeux qui existe, qui représente du coup la Fée des Jeux qui organise.
Sur son petit détail.
Fée des Jeux, c'est un seul mot, c'est F-E-D-E-G, c'est pas la Fée, plus loin, des Jeux, comme la Fée du Logis. Non. Bah, allez-y, présenter un petit peu la Fée des Jeux.
Alors, la Fée des Jeux, qu'est-ce que c'est? Eh ben, du coup, avec Ludinor, dès la troisième édition, on s'est dit, ok, mais ça commence à devenir gros ce truc-là. Comment on va gérer ça avec notre asso? Ça va être compliqué, du coup, ce serait bien qu'on ait un coup de main des autres. Et donc du coup, on s'est dit, on a contacté toutes les assos du coin qu'on connaissait, et on s'est rassemblés autour du festival. Et donc du coup, d'abord, ils nous ont donné des coups de main comme ça, et puis on s'est dit, on pourrait le formaliser sous une fédération d'assos, parce que ça n'existe pas les fédérations d'assos de jeux de société. Et donc du coup, on a créé la première fédération de jeux de société, qui s'appelle la Fée des Jeux. Donc évidemment c'est le jeu de mots qui va bien et du coup d'emblée comme ça c'est pour ça que sur le logo de Ludinor on a une fée parce que du coup d'emblée on savait qu'on allait jouer sur ce mot fée des jeux. Et donc là la fée des jeux aujourd'hui alors c'est assez récent la fée des jeux elle est de 2014 et on est 15 assos pour l'instant dans la fée des jeux qui sont sur les Hauts-de-France donc on est dans la région. Normalement, si tout se passe bien, on devrait développer tranquillement ça, de façon à arriver vers les, j'espère, au moins 30. Ce serait bien, 30 assos, c'est pas mal.
Pour ça qu'à chaque début de salon, comme celui de l'année dernière, il y avait une grande banderole avec marqué la Fée des Jeux et où jouer avec les associations
exactement.
De la Fée des Jeux.
Exactement. On recense, on essaie de recenser l'ensemble des assos dans la
carte,
région.
Une carte de la région, donc maintenant des Hauts-de-France, avec, par exemple, chaque ville avec son petit nom d'association, comment la contacter.
Mmh. Ouais. Et on diffuse ça sur Facebook, enfin, sur les réseaux sociaux, pour que, justement, les assos qui ne sont pas représentés ou sur lesquels on a fait des erreurs, ben du coup puissent nous le dire. Et comme ça, on voit ceux qui sont encore. Est-ce que les assos, ça va, ça vient. Il y en a qui vivent, il y en a qui meurent, parce que du coup, des fois, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça permet de réactualiser ce truc-là.
Donc, en se rendant sur le Facebook de Ludinor, on aura notamment un lien pour savoir où jouer dans les Hauts-de-France.
C'est ouais, ça. Tout à fait.
Avec
tout
toute
fait.
La liste des associations ouais. qui sont encore.
Active,
ouvert.
Active,
ouais, active.
Et ça permet justement de partager cette passion du jeu de société qu'on a tous avec des gens qui viennent peut-être d'un univers différent, qui n'ont pas forcément le même type d'âge. Et c'est un peu ça qu'on retrouve, mine de rien, dans Ludinor. Et qu'on... Alors, est-ce qu'au début, on avait comme ça plusieurs générations qui ont assisté au festival ou est-ce que c'est venu progressivement?
On a toujours eu un peu cette différence de génération parce que nous, au sein de l'association... À la base, à l'Étoile du Jeu, on était déjà, il y avait déjà des familles qui étaient, enfin des familles, des parents qui étaient inscrits. Donc, quand ils venaient sur des week-ends, quand on organisait des événements comme ça, ils venaient avec les enfants. Donc, on a toujours eu une partie un peu jeu de stratégie plus pour les grands. Et puis, on a toujours eu un stock de jeux pour enfants. Mmh. Donc, on a toujours eu cette orientation familiale. Et on insiste pour toujours garder cette marque-là. Et donc là sur le festival, on a réparti les différentes zones. Donc on a une zone stratégie vraiment pour du gros jeu de stratégie, une zone pour le jeu d'ambiance, une zone pour le jeu famille et vraiment une partie enfant qui est accessible dès les tout petits en fait.
Alors si on détaille un peu le salon, c'est par exemple si on va à la salle Montaigne, donc toutes les salles sont à Mont-Saint-Barreul.
Oui.
Et ce qui est génial, c'est que vous avez réussi à plus ou moins négocier les transports qui vont... C'est des navettes ou c'est des...
C'est une navette, ouais. En fait, navette. On a deux bus qui tournent tout le week-end et qui font... Alors le trajet entre les deux salles, entre les deux sites est faisable à pied, hein, entre Montaigne et le fort, c'est faisable en 10 minutes à pied. En espérant qu'il fasse beau, au cas où, on a toujours une navette, donc on a un partenariat avec Ilevia, donc qui nous fournit les bus et qui fait les trajets des allers-retours régulièrement. Donc en gros, il y a une navette qui passe toutes les 5 minutes à peu près.
Et c'est gratuit minutes. Pour c'est gratuit, les bien sûr. Pour ceux qui ont leur billet Ludinor.
Tout à fait.
Alors par exemple, si on va à cette salle Montaigne, on a trois voire quatre salles, c'est ça, si je me trompe pas?
Alors la nouveauté, c'est que comme on manquait de place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, on a ajouté un nouveau chapiteau de 300 mètres carrés sur la salle Montaigne, et donc on a regroupé toute la stratégie directement sur le site de Montaigne, et donc dans la grande salle de sport Montaigne, on retrouvera tout l'espace enfant et la restauration.
C'est ça. Les jeux stratégie, hein, quand on parle de jeux stratégie, c'est un peu un gros mot pour moi, mais c'est des jeux qui sont un peu plus lourds que les autres.
C'est surtout des jeux où tu peux pas jouer quand t'es à côté des tables d'enfants, à cause du bruit.
Il y a un grand
tu as besoin d'un petit peu.
La salle est séparée en deux, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Il faut un peu se concentrer, il faut un petit peu, voilà, c'est un peu plus long.
Quand je dis des enfants qui hurlent, mais parce que t'as aussi la partie avec les jeux d'AP,
les parties games,
c'est ça. C'est les grands qui crient, ils font plus de bruit que les petits en plus.
C'est ça. Donc évidemment, il faut essayer de respecter le calme pour les jeux un peu plus compliqués. Et donc du coup, effectivement, c'est séparé.
Voilà. Et sur ce site de Montaigne aussi, en complément, on a une petite salle qui accueillera, comme depuis 3 ans maintenant, la bourse aux jeux. Donc si les gens veulent vendre des jeux, une partie de leur ludothèque, normalement le formulaire doit être disponible aujourd'hui.
Après l'émission, j'y vais direct.
C'est ça. Et donc,
c'est l'occasion de renouveler son stock et de repartir.
Il vient avec sa camionnette.
Ouais, cette année, je vais devoir.
C'est ça. Donc, bourse au jeu, le principe, hein, c'est quoi? C'est une braderie, c'est une brocante de jeux de société. Chacun ramène ses jeux, on les vend, on fixe le prix et puis voilà, on récupère les jeux qui restent, si jamais il en reste. Mais il n'en reste jamais trop beaucoup à la fin.
Ça a deux avantages, c'est d'acheter des jeux. Éventuellement, si on n'a pas trop les moyens, un peu moins cher d'une première partie.
Comme ce sont des jeux qui viennent de collections de joueurs qui sont passionnés, donc en général, ils sont en bon état, ils ne manquent pas de pièces.
Et puis, on peut vérifier sur place s'il manque des pièces. Hein, ouais. Parce que du coup, on pourrait se dire, ah oui, mais j'achète un jeu d'occasion et puis il manque des pièces, c'est moche. Je vérifie sur place, il manque des pièces, je l'achète pas. Il manque pas de pièces, je l'achète.
Et peut-être qu'on trouvera une perle rare dans ces listes de jeux.
Ou généralement une vieillerie que tu avais envie de jouer, mais que maintenant le flux des jeux fait que tous les 6 mois, ton jeu, si tu l'as pas acheté, tant pis pour toi, quoi.
Donc c'est ça, il faut savoir que l'édition elle est limitée et que du coup il y a des jeux, je sais pas moi, je pense
des
à un
risques.
Truc
des risques, on a vu des risques
les risques sont encore édités.
Oui, non mais des vieilles versions.
Celle de ton enfance avec laquelle t'as joué.
Et bientôt on aura une vente aux enchères avec des cartes qui forgent.
peut-être.
De toute façon moi ce week-end ça va être ça, je vais regarder Noël, mon armoire. Alors toi tu pars. En plus cette année, alors les années précédentes on était limité à 10. On pouvait faire une liste de 10 jeux qu'on pouvait vendre, et cette fois-ci, vous avez un petit peu étendu.
On peut monter jusqu'à 50, je crois. Ouais.
50 jeux par personne, ça devrait aller. C'est pas mal.
Reynald, tu me fais une liste, comme ça j'en rajoute 50. je te les donne et tu les revends à ma place.
Le souci, c'est que j'ai déjà revendu les jeux que je ne voulais plus il y a quelques temps, donc maintenant il faut que je remplisse.
On essaie de faire attention que cette bourse aux jeux soit réservée aux particuliers, c'est-à-dire que il n'y a pas d'entreprise, parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées dans la vente de jeux d'occasion, et on ne souhaite pas que les entreprises intègrent ça, parce que du coup je trouve que les affaires sont moins sympas,
Et puis on a des partenariats avec des boutiques qui sont présentes sur le festival.
C'est pour ça que vous fixez comme règle que les jeux qui sont vendus doivent pas être âgés de 2 ans, c'est
au moins 2 ans d'ancienneté,
il y a plus de 2 ans.
Oui, c'est pour éviter de faire la concurrence directe avec les magasins,
Alors dans cette salle montagne, il y aura aussi des animations telles que des escape rooms.
Ouais, alors Escape pas trop cette année comme on l'a connu sur les années précédentes. On aura de l'escape game live, parce que c'est des petits modules d'escape qui se jouent sur table.
Ah, c'est pas si petit que ça, parce que c'est une heure l'escape quand même.
Mais il y aura plus le format. On n'a pas de partenariat cette année avec une escape.
Il faut changer.
Personnellement, voir des escape rooms partout. Déjà, les vrais escape rooms, les entreprises qu'on voit fleurir un petit peu partout en ville, ça commençait à me fatiguer un petit peu aussi. Et le moindre salon, il fallait à tout prix avoir son escape game, etc.
Il y a une vraie demande.
Comme il y a beaucoup de jeux de société de table qui sont sortis sur le thème, avec la mécanique des escape games, je pense que les gens ont compris et puis vont peut-être se tourner plus vers ce côté-là.
Et je suppose qu'à la salle montagne, si on a besoin d'un rafraîchissement.
Bien sûr, il y a une restauration, il y a tout ce qu'il faut, du snacking. Sur tous les sites, vous allez retrouver de la restauration.
Et il faut des bénévoles, bien sûr, pour entretenir tout ça.
Voilà. Enfin, il y aura de la bière aussi.
Non.
Parce que le joueur boit souvent de la bière aussi, quand même, il faut le dire.
On dit ça parce qu'on attend un petit mot magique puisqu'on a préparé de la musique.
Un mot clé, le premier qui le prononce est perdu.
On ne s'est pas autorisé à le prononcer, donc on vous attend là-dessus. Donc on va essayer de vous aiguiller, mais ça va être dur.
Merde.
Donc c'est en lien avec la restauration.
On comprend pourquoi t'as les coordinatrices. Hein.
Donc
au cas où, on peut toujours boire un coup, c'est ça.
Et il faut des bénévoles pour tout ça, pour gérer tout ça. On peut aborder le sujet des vols, parce que je vais rappeler encore une fois que la semaine dernière, donc j'étais à Montpellier, je voulais simplement y aller en tant que visiteur, puis j'ai vu qu'il dit, si vous avez un petit peu de temps en tant que bénévole, je me suis dit, je vais m'inscrire en tant que bénévole, on sait jamais. Alors sur le salon, en fait, sur les 2 jours du salon, je pense que j'ai joué 1 heure le dimanche, et peut-être 2-3 heures le samedi. Le reste, j'ai passé mon temps à faire des sandwichs, des croque-monsieur, des crêpes à servir à la buvette. J'ai tout fait.
C'est cool aussi. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce salon, comme d'autres salons, c'est un salon associatif. On cherche pas à faire du pognon, on cherche juste à ce que les gens puissent jouer et que on s'en sorte à peu près pour pouvoir faire l'édition suivante. Si les gens qui viennent, ils participent un peu à toute cette organisation, et ben du coup tout le monde est content, c'est comme toujours, hein.
Ça va
plus on est
que ça, parce que je dirais que si les gens qui nous écoutent, s'ils ne sont jamais allés à un salon du jeu, allez-y en tant que simple visiteur. jouer, poser des questions, acheter des jeux éventuellement, tester les jeux, les jeux grandeur nature derrière, aller voir l'exposition, etc., consommer. Et ça vous donnera peut-être envie d'aller à d'autres salons. C'est pour ça que je comparais tout à l'heure avec le salon d'automobile ou le salon du mariage, etc. Tu vas à un, tu vas pas aux autres. Mais plus tu vas à un salon du, tu vas à un salon du jeu, t'as envie d'aller aux autres et tu te renseignes, etc. Et allez-y, peut-être pas la prochaine fois, mais les prochaines fois, allez-y, inscrivez-vous en tant que bénévole, donnez un coup de main pour installer la salle, ou peut-être si vous avez une camionnette, une voiture, il y a des petits salons qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'aide de bras simplement pour installer, aller aider à faire des sandwichs, aller à servir, accueillir les gens, expliquer les règles, peut-être pas la première fois, mais peut-être les fois suivantes. C'est super important et c'est vachement plus enrichissant.
Et ça prend pas forcément beaucoup de temps. On n'est pas obligé de faire ça tout le week-end. C'est-à-dire qu'il y en a qui font ça pendant une demi-journée et puis ils ont une journée et demie où ils en profitent.
Je l'ai fait pratiquement toute la journée parce qu'il manquait de bénévoles, donc ils faisaient régulièrement appel à des bénévoles. Il y a des gens sur le salon qui se sont dit, je vais aller faire un coup de main. On leur a donné un t-shirt, ils l'ont enfilé, puis c'est parti.
Et ce qu'on voit souvent, c'est celui qui s'inscrit une demi-journée. Et du coup, il y a une bonne ambiance, il se marre bien, il fait des copains, et puis du coup, il reste. Et puis, ça continue jusqu'à la soirée, et puis
il s'aperçoit à la fin du salon qu'il a pas joué, qu'il s'est même pas assis à table.
Mais c'est pas grave,
c'est génial.
On pourrait changer le nom bénévole par passionné, parce que généralement, les gens, ils sont contents d'être là.
Oui, alors, ce qui est rigolo, c'est que les bénévoles sont pas tous des joueurs. Alors j'ai des bénévoles qui sont là tous les ans et qui jouent pas spécialement.
C'est ça, ils peuvent
parce qu'ils aiment bien l'ambiance, parce qu'ils aiment bien être là.
Un conjoint qui vient aider pour les bénévoles, etc. Et ensuite, alors là, on passe de l'étape de visiteur à bénévole, et ensuite on s'implique éventuellement dans l'organisation comme vous l'avez fait, puis maintenant pour arriver au plus haut poste, etc. Mais après, on peut venir aussi en tant que, au début peut-être créateur. On va aborder la partie proto en tant que créateur ou voire vendeur, éditeur, etc., auteur de jeu. Donc il y a une partie, il y a une nouveauté cette année que j'ai repérée, c'est ce qu'on appelle la Proto Night.
Oui.
Tout à fait.
Alors il y a toujours eu.
Mais on n'arrête pas les nouveautés, mais c'est fou quoi.
Il y a toujours eu.
Mais qui sont ces coordinateurs? Comment on va faire?
Il y a toujours une partie création qui est importante à Ludinor avec un prix de la création Ludinor.
Et elle a toujours été là, dès le début du salon.
Cette année, dans la partie création qui occupe une salle de la, c'est la salle principale, c'est la salle du Fort des Monts. Il y a 10 jeux. Alors attendez, il y a 3 catégories de jeux, stratégie,
famille, stratégie, enfant.
Voilà, donc 35 jeux au total, avec une petite remarque négative en regardant la liste. Je m'aperçois qu'il y avait une seule fille qui présentait un proto à elle.
C'est ça.
Hein, bon, voilà.
Alors, après, les candidatures, on en reçoit beaucoup. Alors, j'ai plus le chiffre.
Plus de 140. 100,
ouais, alors, là, il quasiment est, 150. Là, il est trop tard de toute façon pour s'inscrire en tant qu'auteur pour la partie création et pour le prix de la création.
Ça, l'inscription se fait en novembre, je crois.
Oui, parce qu'en fait, les mails ou les indications sur les forums, généralement fin novembre, pour dire à partir du 1er décembre. Je dis une bêtise, mais c'est dans cet ordre-là. Du 1er décembre, vous pouvez nous envoyer les mails jusqu'au 15 jours plus tard où c'est clos et après, on vous répond si vous êtes reçu ou pas.
Et donc, comment ça se passe? Les gens, vous recevez des dizaines, ou peut-être pas des centaines, mais des dizaines de prototypes.
En fait, on reçoit, la sélection se fait sur lecture des règles, anonyme. Donc, on ne connaît ni le nom de l'auteur, les fichiers sont anonymisés.
Ça se dit. Vous connaissez le nom du jeu?
Je crois même pas qu'il y ait le nom du jeu, parce que c'est un monde, la création du jeu de société, les créateurs se connaissent souvent plus ou moins, donc c'est vrai qu'on demande qu'il y ait vraiment aucune identification ni du nom ni du jeu, etc. Et donc ce sont un jury qui est composé et qui relie toutes les règles. Alors je vous dirai pas le nombre de règles qu'ils ont à avaler, mais bon.
Donc c'est par catégorie, évidemment.
Ils
sont 4, 5 à lire les règles, donc ils se farcissent un peu toutes les règles. Alors quand on a une règle stratégie, c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de pages en général. Donc effectivement, ils savent pas qui a fait le jeu, pour pas favoriser un nom connu, par exemple, et se dire qui je suis pour refuser que cette personne gagne ou voilà. Et sur les 140 candidatures, effectivement, il y a 35 élus, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que la sélection, elle est assez pointue, parce que les gens qui lisent les règles, c'est des gens qui ont l'habitude de jouer, qui ont l'habitude de lire des règles, et c'est plutôt reconnu comme dans le monde du jeu, c'est plutôt reconnu comme concours.
Alors dans les prototypes qu'on reçoit, je suppose qu'on a un peu de tout, des jeux qui n'ont pas eu le temps d'être faits, qui sont encore sur des versions papier, limite fait à la main, peut-être d'autres qui vont un peu plus loin et qui arrivent déjà à avoir une version plus finale.
Mais c'est impressionnant la qualité des prototypes. Enfin, je me rappelle par rapport même il y a 10 ans, mais peut-être même il y a 5 ans. Quoi, tu pouvais arriver avec tes petits carton découpé, ouais, imprimé, etc., sur une imprimante Genang pourrie. Mais maintenant, t'as des imprimantes 3D qui ont chuté. Donc, t'as des gens qui arrivent avec des pions, enfin, des pièces de jeu imprimées en 3D, avec des règles, bien sûr, imprimées en super qualité, etc. Mais c'est impressionnant.
Des fois, on a du mal à différencier le proto du vrai jeu.
J'ai déjà vu des protos qui semblaient une meilleure qualité que le jeu professionnel à côté, quoi. Ouais.
La sélection se fait pas sur la qualité du jeu. Hein. On accepte tout à fait un proto en papier. C'est vraiment une sélection sur la règle. On demande une photo du jeu pour avoir une idée du positionnement du plateau de jeu. Mais la sélection se fait vraiment sur.
Donc une présélection fait surtout sur la mécanique du jeu.
Tout à fait.
Et après, je suppose, il va avoir sûrement des petits concours pour savoir quels sont les meilleurs créateurs du salon.
Parce que tous les visiteurs les visiteurs du salon, pardon, peuvent tester les jeux.
Ouais.
On leur donne une petite fiche, ils remplissent, et à la fin, ils doivent voter dans chaque catégorie pour le jeu qui leur a plus plu.
C'est ça. Et cette année, nouveauté.
Ah,
attention, c'est fou, quoi. Comment ils font pour voter, Aude?
Eh bien, maintenant, tout est informatisé, donc on vote sur tablette.
Notre
groupe créateur est content du temps gagné.
Vous allez donner une tablette par visiteur?
Non, il y a des référents, en fait, sur. Donc, chaque zone proto. Donc, par exemple, si vous voulez tester les jeux proto-famille, vous allez les retrouver forcément sur la zone famille. Les proto-stratégie sur la zone stratégie et enfant sur la zone enfant. Et donc, sur ces zones-là, il y aura des référents, donc des bénévoles qui auront les tablettes et qui pourront voter. Et derrière ce vote, il y a. L'avantage, c'est que du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de geeks, il y a beaucoup d'informaticiens. Donc, on a un groupe outils et process qui est calé, qui est au top, qui nous pond des algos au top. Et donc là, en fait, il y a une pondération. Donc, plus vous testez de jeux, plus votre vote aura de l'importance. Voilà. Donc, en effet, si vous votez, vous essayez qu'un seul jeu et que vous votez pour ce jeu-là, forcément, votre vote comptera pour moins que celui qui a essayé 10 jeux. Quoi. Voilà.
Donc, la personne qui s'amusait à récupérer à la main les fiches écrites l'année dernière doit être super ravie.
Ouais, exactement.
C'est fini. C'était le temps passé, monsieur.
Non, mais ce qui était marrant, c'était surtout que chaque créateur avait son petit stylo
de couleur.
Je me souviens d'une année où j'ai couru après la personne qui m'avait passé le stylo en disant, je te rends ton, tu peux le garder. Ça fait un quart d'heure que je te cours après, enfin.
Oui, c'est pour éviter la fraude, forcément.
Je voudrais pas influencer les votants de cette année, mais j'ai déjà mon petit favori. Ouais. Un jeu qui est dans la partie stratégie qui s'appelle The Belgian Beers Race.
On ne sait pas pourquoi.
La course aux bières belges, en plus, c'est un truc qu'on connaît ce proto, on l'a déjà pratiqué en vrai.
Il n'y a
pas longtemps à Bruxelles, etc. Donc il n'y a pas de problème.
Il manquait plus un proto sur les frites, c'est parti.
Et donc ça, c'est la partie créateur où pendant 2 jours complets, les prototypes seront sur les tables, on pourra les tester. Et il y a le samedi soir. Alors le samedi soir, il y avait le off.
Oui. Il y a toujours.
Il y a toujours. Et maintenant, une petite édition, la Proto Night.
Oui, alors le off, alors on l'appelle nocturne aussi parce que, enfin voilà, off ou nocturne. Elle est ouverte donc à partir de 20h le soir. Donc le salon ferme ses portes, le festival ferme ses portes à 20h. Enfin, officiellement, l'accès aux jeux, aux boutiques, etc. Et donc démarre la nocturne. Et la nocturne, il y a donc du gelon. Donc la liste des gelons est en ligne. Et comme c'est du gelon, il faut s'inscrire. Il y aura du jeu de rôle et il y aura cette année la nouveauté du proto. Alors on a donc laissé la possibilité à tous les créateurs qui n'avaient pas été retenus et à d'autres créateurs qui le souhaitaient de venir avec leur proto pour faire tester durant la nuit leur jeu. Voilà.
Donc n'importe quel créateur peut venir au salon visiter et le soir dire j'ai mon proto dans mon sac.
Ouais.
Il n'y a pas besoin de s'inscrire.
Alors on a demandé une préinscription de 30. Après, si jamais on a plus de places ou s'il y a des places qui se libèrent, on pourra.
Alors,
le créateur pourra venir.
Petite précision, quand on dit le salon ferme, en fait, il ne ferme pas, hein, on est d'accord. Quand on dit ferme, ça veut dire qu'à partir de 20h, les jeux sont censés être qui étaient censés être expliqués par les bénévoles ne sont plus expliqués. Et qu'à partir de 20h, les boutiques ferment.
Parce que les gens peuvent quand même entrer.
Les gens peuvent entrer. Alors l'entrée, on la limite jusque
minuit.
Minuit. jusque minuit. Donc à partir de minuit, par contre, on peut plus rentrer dans le festival.
D'accord. Toute sortie est définitive.
Exactement. Et quand on arrive, les bénévoles qui ont pu dormir la nuit arrivent à 8h du matin. On retrouve les vaillants joueurs qui ont tenu toute la nuit. Terrible, donc il y aura encore une restauration. Il y a un service minimum qui sera assuré pour la restauration durant toute la nuit, forcément.
Donc, il y aura des gens avec 6 tasses de café qui ont été remplies maintes fois.
Les gobelets en plastique, réutilisables.
Ah oui, les fameux éco-cups. Est-ce qu'il y a des nouvelles éco-cups cette année?
Bien sûr, bien sûr.
Évidemment, évidemment.
C'est des détails, mais c'est les trucs de collectionneurs, ça.
Ouais. C'est vrai que la couleur de l'année.
J'ouvre une armoire chez moi, je vois tous les éco-cups de tous les festivals.
Mais quelle est la couleur de cette année? On ne sait pas.
Moi-même,
je ne sais pas.
Question inutile, vous avez pensé à changer la couleur du t-shirt cette année?
Ah non.
Avec le mouvement des maillots, si, des t-shirts, des gilets jaunes, non?
On change pas la couleur des t-shirts. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un an, deux ans peut-être, il y a une nouvelle couleur de t-shirt.
Il y a plusieurs
couleurs de t-shirt. Il y a une couleur bleue. Il y a des gens qui sont en bleu. Alors pourquoi il y a des gens qui sont en bleu? C'est pas parce qu'ils sont spécialement chefs, c'est surtout parce que c'est des gens qui n'expliquent pas de jeu. Et en fait, on s'était rendu compte.
Faut pas les embêter.
Ouais. C'est ça.
Moi, je sais faire des sandwichs. Pas...
Mais je exactement. Je sais faire des sandwichs et je ne connais pas de jeu.
Je l'ai constaté, ça. Il y a, bah oui, on peut le dire encore. J'avais mon t-shirt, je sortais des cuisines, je vais prendre un peu l'air, je vais voir mes amis, etc. Puis je me fais agresser gentiment par des joueurs sur le côté. On comprend pas la règle. Heureusement, c'est des jeux que je connaissais. J'avais l'avantage de savoir faire des sandwichs, des crêpes et de savoir expliquer les jeux.
Alors, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas expliquer ce genre de jeu et
ne savent pas faire des croque-monsieur.
Et c'était compliqué pour les gens de reconnaître les gens qui expliquent ou pas les jeux.
Mais justement, ça permet de mettre en valeur les bénévoles, parce que si vous n'êtes pas familier avec le jeu de société et que vous êtes encore à croire qu'il n'y a que le Monopoly, non, justement, ici, vous aurez des bénévoles qui vont vous accompagner. Et dans l'univers du jeu de société, on a tellement de niveaux de difficultés différents, des choses extrêmement simples, et pour les experts, des jeux extrêmement poussés, qui peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, hein, parce qu'on en a fait des jeux de figurines.
Tout à fait.
Et du coup, c'est bien que, justement, on a ce off qui permet d'attaquer éventuellement des jeux plus gros. Ouais. Et pour les créateurs, ça, c'est génial, puisque lorsqu'on crée son jeu de société, on est tout seul à y jouer, on est bloqué dans cette mécanique de jeu, et ça permet de voir des choses qu'on n'a pas pensées. Mmh. Justement, avec des joueurs qui vont peut-être avoir des idées farfelues, qui vont vous dire, bah oui, zut, j'ai pas pensé à ce cas-là.
Non, mais surtout, tu sors de ton bien-être et de la famille, enfin, des copains, amis.
Du cercle connu,
Voilà, qui, des fois, n'osent pas trop dire quelque chose sur ton jeu, alors que eux, ils disent, on joue parce qu'on te fait plaisir, point, mais voilà. Alors que là, tu rencontres des gens, qui te connaissent pas, qui peuvent te dire ouvertement les choses.
Ouais.
Et ton jeu est bien fait, mais il y a ça comme matériel, c'est pas
l'anonyme. C'est aussi l'occasion de voir, parce qu'il y a des visiteurs des protos, mais il y a aussi les boutiques, mais il y a aussi des auteurs et des éditeurs connus qui viennent présenter leur jeu, ou simplement parce qu'ils aiment aussi jouer après tout, et qui peuvent te donner des conseils, voir ton jeu, et qui sont capables en 10 secondes de détruire ton proto.
Ouais, mais c'est bien de venir sur le festival, parce qu'on peut on peut essayer un proto auprès d'associations de jeux, mais sur le festival, il y a un public qui est tellement varié. Ouais. Il y a autant des experts de jeux que des familles qui n'ont pas cette culture ludique. Et c'est ça qui apporte aussi à l'aboutissement d'un jeu.
Voilà, pas la retenue de dire, des fois, pour l'avoir présenté, il y a des personnes qui ne savent pas le travail qui a été fait derrière, le nombre de soirées perdues, entre guillemets, à chercher une image sur Google, enfin bref, et qui ne connaissent pas ça et qui jouent pour faire plaisir à l'enfant qui accompagne et te disent ouvertement, brûle pour point, ça me plaît pas, ça me plaît, ça. Et après, c'est un travail sur ton ego pour te noter, mais c'est vraiment que ça fait du bien, justement, pour que tu puisses faire évoluer le prototype.
Oui, tout à fait. Ouais.
On peut aussi notamment parler des invités qui seront présents au salon Ludinor. Ouais. Alors, beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices. Cette fois-ci, on change la balance. Est-ce que vous avez quelques infos sur ces invités?
Alors, en effet, une de nos spécificités de Ludinor, c'est d'avoir une exposition qui est consacrée aux illustrateurs de jeux de société. Et donc cette année, l'affiche de Ludinor est toujours faite par un illustrateur de jeux de société. Et cette année, c'est une affiche à quatre mains. C'est une collaboration inédite entre Maud Chalmel et Anne Edzik, donc des femmes. donc qui seront présentes aussi sur l'Udinor. Et dans cette expo, on retrouve un peu le travail de plusieurs illustrateurs. Et tout le travail, alors c'est plutôt orienté, on voit leur travail sur les jeux de société, en sachant que les illustrateurs n'ont pas que cette partie jeux de société, ils sont aussi souvent auteurs de livres à côté, hein. Et donc il y aura des dédicaces, mais ils sont à disposition du public, et c'est vraiment sympa d'échanger avec eux, parce qu'on voit tout le travail qui a été fait sur une illustration, du croquis jusqu'à
vrai,
la...
C'est vrai, j'ai déjà eu une connaissance qui tient une librairie, et dans son rayon jeunesse, j'ai retrouvé un livre Je me disais, les illustrations de ce livre jeunesse me disaient quelque chose. Et peu de temps après, j'ai fait une partie d'un jeu. Ça m'a rappelé. Je me suis rendu compte que c'était la même illustratrice entre le livre jeunesse et la.
L'exposition est encore au même endroit. C'est dans le. Parce que la salle du Fort de Mont, c'est à côté du Fort de Mont. Si vous n'êtes jamais allé, si vous habitez la région, venez à l'occasion ça. Mais vous pouvez aussi visiter le Fort de Mont, ce qui est un endroit assez magnifique.
Et puis, il y a
qui s'appelle le Fort McDonald. Oh.
Ouais. Et puis, il y a des visites qui sont organisées. On a.
D'où la restauration.
On a.
Non, mais on va essayer de revenir sur le mot qu'on cherche, non?
Ah, tant pis, on mettra en musique de fin, c'est pas grave.
Non, on a une association, l'association Eugénie, qui fait des visites du fort, parce que c'est vraiment un site historique, et je vous conseille, et c'est vraiment très intéressant de faire le tour.
C'est ça, et ils sont partenaires, et ils viennent sur le festival, et y a des fois y a des gens qui accompagnent des enfants, par exemple, au festival, et qui n'ont pas spécialement envie de jouer, et du coup, c'est une visite qu'on peut faire pendant ce week-end. Et
puis ce sont des passionnés, donc alors vous partez... au départ pour une heure, vous en avez peut-être pour deux heures.
comme l'émission qu'on est en train de faire.
Donc voilà, au Fort de Mont, vous pourrez retrouver des jeux d'ambiance, des jeux de famille, des créateurs, des jeux de rôle, des expositions.
Des associations. Et justement, j'ai préparé un petit quiz.
Ah, vas-y.
Parce qu'il y a un truc qui est amusant, c'est que quand vous créez votre salon, le salon s'appelle Udinor, c'est pas compliqué. C'est difficile. Il y a tellement de salons maintenant, essayez de trouver un nom original, etc. Je me suis penché, toutes les associations que j'attends, on essaye de faire des jeux de mots. Ouais. Et je me suis mis à chercher les noms d'associations ou de clubs, etc., qui contiennent le mot D. Et donc, je vais vous citer, j'ai créé une dizaine de mots et vous allez devoir deviner si c'est une association ou un club qui existe ou si c'est une invention.
D'accord.
Je vais commencer par les dés gommés.
Ah, évidemment que ça existe.
Ah, bon, c'est sûr. C'est dans la Fée des Jeux, je suis
sûr.
Ils ont rejoint la Fée des Jeux en 2017. Ouais. C'était facile. Ils sont de l'Aventille. Ouais. Les dés punchés.
Exactement, ça existe aussi.
Exactement. C'est eux qui organisent le salon Web en jeu. Exactement. Ouais. Ils sont à la Bassée. Si je vous dis de cap et de dés.
Alors, ça, je ne connais pas.
Mais ça pourrait.
Ça pourrait être du côté, mais non.
Moi, Vimereux, je te fais confiance. Tu connais pas.
Vimereux, c'est fou du pion, peut-être, mais.
Non, de cap et de dé, ça existe. Et oui, c'est une association, c'est un club de Tours.
De Tours?
Ah, c'est Tours.
De Tours, ouais. Ah oui, j'ai débordé un petit peu de la région.
Un petit peu.
Jeu, écrit comme jeu, dé, comme écrit comme dé, et potes. Donc ça fait jeu des potes.
Oh, ça doit exister, ça. Ouais. Ça, c'est un truc.
Non, c'est une invention de Dominique, ça.
Et non, ça existe. Ah, bah. C'est une invention de Flo Vargue, en Gironde. Attention, je vais vous spoiler tout de suite. Je tapais D dans Google et j'essayais de trouver des noms qui n'existent pas. Eh ben, j'ai pas réussi. Je pouvais taper n'importe quoi qui commence par un D et je trouve une association.
Même chez DD, ça existe.
J'ai vu le pion entre deux chaises. Ça existe.
D à la carte.
Évidemment que ça existe. Oui, c'est à Lille.
Et c'est justement eux, ils sont à Lille, donc pas très loin. Et eux, c'est eux qui organisent la convention inoubliable en jeu de rôle au mois de novembre. Les dés pipés.
Oui. Ça, je peux te le dire direct. Parce qu'il y a eu le stand à Bruxelles.
Exactement. C'est une association qui l'a ouvert. On se rappelle, c'est anecdotique. Parce qu'ils avaient le stand au BGF, le Bruxelles Games Festival. Ils avaient leur petit panneau, les dés pipés. Et avec le vent, la partie D était effacée. Donc, c'est écrit pipé.
Pipé. En fait, il y avait l'accent du E de D. Enfin, pour les dés, en fait, était bloqué à cause du vent du stand. Donc, on voyait des pipes. Et nous, de loin, on faisait, c'est peut-être un jeu, mais quand même, à ce point-là,
Les décalés, c'est une association de Montpellier. Démoniaque. M-O-N-I-A-K-S.
Ça doit être une association
de jeu de rôle.
Exactement, c'est un club de Binche. En Belgique aussi. Les démasqués.
C'est joli. Démasqués, oui.
Ça fait Dunkerque.
Dunkerque, tout à fait.
Et les dérangés.
Vous connaissez. Les dérangés. Les dérangés. Ça doit exister.
Ça existe. Il y en a même plusieurs. T'as des boutiques, etc. Et eux, ils sont notamment à Saintes.
D'accord.
En Charente-Maritime.
Il y avait aucun fake en fait.
Bah, j'ai pas réussi à en trouver. J'ai essayé d'en inventer et chaque fois je l'ai trouvé pour de vrai. Donc bon courage à ceux qui veulent lancer une association, un club ou un festival pour essayer de trouver un nom original.
Les démoulés, mais bon.
Ouais. Les démembrés,
les démembrés aussi.
C'est pour les salons de l'érotisme.
Ou de jeux de rôle, ça dépend.
Donc forcément, si vous voulez participer au salon Ludinor, vous pouvez déjà pré-acheter vos places, c'est ça la billetterie?
Oui, tout à fait.
Sur le site de ludinor.fr.
Tout à fait. Alors, il y a une, donc c'est 3 euros la journée, 5 euros le week-end. Et puis, vous pouvez, en soutien du festival, acheter un petit pack de goodies. Alors, c'est soit un tote bag, soit un jeu flip-flap, soit un petit pack avec un badge, des cartes postales.
Et la fiche du Ludinor, peut-être.
Je ne sais plus.
Non, pas, 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 pas en prévente. Pas en
non,
prévente.
Pas en prévente. Non, pas en prévente.
Et rappelez, Flip Flap, c'est un auteur du Nord.
Mm-hmm.
Et
donc, du coup, c'est plein aussi pour, d'auteurs dans le Nord.
Bah, c'est aussi pour ça qu'on le soutient, parce que du coup, c'est une petite maison d'édition et que du coup, on aime bien. On est aussi là pour essayer de faire en sorte que le tissu ludique local fonctionne.
Ouais. Comment on sera à Ludinor, c'est tout bête. Il y a le métro Fort de Mons est juste à côté. Ouais. Il y a un grand parking qui doit être de plus en plus rempli à chaque fois, j'imagine.
Alors, ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que les navettes parcourent les parkings, comme par exemple les prés.
Il y a les prés, non, mais...
C'est ça, c'est les stations de métro les plus proches, oui.
C'est ça.
Donc, vous pouvez laisser votre voiture au prés.
On n'a pas parlé de la salle Marie Curie cette année.
Ah oui, exactement.
Encore
une nouveauté.
C'est fou, ça.
Donc là, la salle Marie Curie, c'est une salle qui est un petit peu plus loin, donc il faut plutôt y aller en navette ou en voiture. Et elle sera vraiment consacrée aux jeux de cartes, avec des tournois de Keyforge, j'en en parlais tout à l'heure.
On a résisté à parler de Keyforge cette émission. Et là, non.
On n'a pas de chance.
Donc, on vient avec son deck ou on en prend un sur place?
C'est sur place. Il y a du Dragon Ball, il y a du Final Fantasy, et puis il y aura de l'initiation. Il y aura aussi de l'initiation, vraiment jeux de cartes. Et c'est en partenariat notamment avec Au Beau Jeu. Voilà.
C'est ça. Alors, juste pour les partenaires, parce que je vais en parler un petit peu. On a évidemment plein de boutiques qui sont présentes. Hein. On parlait juste d'Au Beau Jeu, mais il y a aussi le Furet du Nord qui est un gros partenaire pour nous. On a Pickwick qui participe en tant que boutique. On a
Rocambole
qui est la référence toujours.
J'ose pas citer des noms, des fois qu'il serait pas là. Mais...
non, Rocambole qui est toujours là. On a le Farfadet des joueurs qui est à Valenciennes. On a l'Antre du Dragon qui est à Liévin. Qui c'est qu'il y a d'autres? J'en oubliais, ça va être moche. Ça va être très très moche. Non, c'est pas
après,
mal.
On a des boutiques plus spécialisées.
Si, il y a le village du jeu qui est à Bailleul. Voilà.
Et puis après, on a Méo qui nous fournit le café. Ouh. Et puis, alors, le plus gros partenaire.
Faut se rappeler quand même, c'est la mairie.
C'est la mairie.
C'est la mairie qui nous suit.
Qui nous suit et qui nous soutient. Mais c'est hallucinant le soutien logistique qu'on a de la mairie.
C'est leur idée des géants.
On va être content, ça va marcher.
Et qui nous fournit tous les locaux. Donc, franchement, là-dessus. Sans eux, on serait rien.
C'est ça. Et on a un gros partenaire qui s'appelle Équipement, qui s'occupe de notre mobilier.
Voilà. Donc, retrouvez toutes les infos de Ludinor sur le Facebook Ludinor, sur ludinor.fr. Vous avez également la fédéjeux.fr. Et si vous voulez réécouter le podcast sur le site anotherpodcast.fr ou sur notre site Facebook, heureusement, en France. Et on va terminer par une musique de fin. Je vais vite parce qu'on est déjà là pour. Ouais. On a les aventuriers des salles obscures qui arrivent juste après nous pour ne rien manquer des films à l'affiche. Et on va se quitter avec le mot magique qui était buvette.
Qui a été dit par Dom sans le savoir.
Ça compte pas. Buvette, c'est un artiste électropop suisse. J'ai trouvé ça, j'ai entendu ça cette semaine. J'ai dit buvette, ben voilà, ça colle.
Voilà. On se retrouve très prochainement pour une autre émission. Merci Xavier, merci Aude.
Merci
et
à vous.
On se retrouve le 30 et le 31 mars.
Allez, bye bye.
À bientôt. Thank you.